Amen. Bonsoir à tous. J'aimerais ouvrir cette prédication par une lecture. Je trouve que c'est bien quand même de commencer en lisant le Saint-Livre. Dans l'Évangile de Marc, au chapitre 5. Et on va voir l'histoire de quelqu'un qui était empêtré dans la mort. Quelqu'un qui était en proie à de nombreuses souffrances, qui était tourmenté. Et qui va découvrir la vraie vie, celle qui vient du ciel, d'une vie d'errance, il va y avoir une vie qui retrouve un sens. Marc chapitre 5. Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer, dans le pays des Géraséniens. Aussitôt que Jésus eut débarqué, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint au-devant de lui. Il avait sa demeure dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombes et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accouru, et se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas !» Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur !» Et il lui demanda, « Quel est ton nom ?» « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le suppliait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Or, il y avait là, près de la montagne, un grand troupeau de pourceaux en train de paître. Et les démons supplièrent Jésus en disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque ainsi qu'au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus pour qu'il s'en aille de leur territoire. Comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait afin de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas. Mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'admiration. Amen. Nous avons ici l'histoire de quelqu'un qui est, je dirais, hors du commun. Plusieurs choses ont attiré mon attention. Ici, on a quelqu'un qui vit dans les tombeaux, qui est possédé. Donc, de par ce qu'il en est dit de lui, pour en arriver là, forcément, c'est quelqu'un qui est allé loin dans des trafics, je ne dirais pas des trafics humains, je dirais quelqu'un qui est allé loin dans la recherche de choses qui sont mauvaises. Quelqu'un qui a été au contact de choses obscures, de choses occultes. Et il en a découlé ce qui lui est arrivé. Bref, c'est quelqu'un qui est dans l'impureté. Mais bizarrement, quand on lit le texte, il y a des choses surprenantes. Et je crois qu'à travers son état, son histoire, on pourrait peut-être faire quelques parallèles avec nos vies. Je ne dis pas qu'on ait des personnes qui soient comme lui, mais il y a des choses qui font réfléchir. Par exemple, au verset 3, j'ai noté « Personne ne pouvait plus le lier. » Autrement dit, c'était quelqu'un de libre. Je fais ça pour choquer, pour faire réfléchir. Personne ne pouvait plus le lier. On pouvait lui mettre les chaînes et pourtant il les rompait, les chaînes. Autrement dit, c'était quelqu'un qui était libre. C'est bizarre, hein ? Quelqu'un qui est libre. Est-ce qu'il l'était vraiment ? Non, il n'était pas libre. Il était bien enchaîné. Et pourtant, il rompait les liens. Une pseudo-liberté. Et cette pseudo-liberté, c'est celle qui finalement nous atteint tous le jour où on commence à se dire « Mais moi, dans la vie, je veux faire ce qui me plaît. Moi, dans la vie, je veux faire ce que je veux. Les choses de Dieu, ça m'est bien égal. Moi, je veux profiter de la vie. Je veux la croquer à pleines dents. » C'est ce qu'il a dû faire, ce bonhomme. C'est ce qu'il a dû faire. Il voulait tellement croquer la vie à pleines dents qu'il s'est retrouvé dans une situation honteuse. J'ai lu une biographie il n'y a pas longtemps d'une personne. C'est une histoire triste et joyeuse à la fois, qui était née dans une famille difficile, dans le sens où son père était, par choix, alcoolique. Il jouait à des jeux d'argent. Tout l'argent de la famille y passait. Et la maman avait plusieurs enfants en bas âge. Et la maman faisait ce qu'elle pouvait. Mais vous comprenez bien qu'avec une bonne ribambelle d'enfants, des fois la maman a aussi besoin de repos. Et ce qui est arrivé à cet homme, qu'il était bébé, sa maman était partie se reposer, discuter avec la voisine pour se libérer un peu la tête. Et un incendie s'est déclaré. Son bébé qui était au berceau s'est retrouvé dans le feu. Il a été incendié au point qu'il a perdu une partie de la main. Il a été défiguré du visage. Bref, c'était un homme qui démarrait mal dans la vie. Parce que son père avait décidé de faire ce qu'il voulait et qu'il ne voulait pas assumer sa responsabilité de père de famille. Il préférait jouer à des jeux, il préférait aller dans les bars, il préférait faire ce qu'il voulait de sa vie, mais il ne voyait pas en sa vie une responsabilité quant à sa famille. Et cet enfant a grandi, et il a grandi dans la violence, il a grandi dans l'alcoolisme, il lui aussi a appris les travers de son père. Et toute sa vie, je dirais, a été un enfer. Jusqu'au jour où il rencontre le Seigneur. Et gloire à Dieu, sa vie a changé, sa vie a retrouvé un sens. Mais tout cela pour dire que cet homme avait, semble-t-il, voulu choisir la même liberté que son père, et il s'est rendu compte que finalement, la liberté qu'il cherchait était en fait des liens. Quand on se retrouve lié à notre liberté, ça pourrait être le titre de ce message, lié à ma liberté. Bien sûr, de quelle liberté s'agit-il ? Celle de pouvoir faire ce qu'on veut ? Celle de pouvoir boire ce qu'on veut à quantité débordante ? Mais de quoi nous rendons-nous compte ? Que finalement, on se retrouve lié à notre propre choix. Et on aimerait même s'en sortir, mais on ne peut plus nous en sortir. Cet homme, plus personne ne pouvait le lier. Il semblait libre, mais lui, il était lié. Il était indomptable. Et aller dire à un alcoolique d'arrêter du jour au lendemain de boire, il est devenu, dans ce domaine, indomptable. Il n'est plus possible de le retenir. Et il faut qu'il ait sa dose. Et il en était de même pour cet homme. On ne pouvait plus le lier. Un peu plus loin, au verset 4, on voit autre chose. Personne n'avait la force de le dompter. Autrement dit, il avait une certaine force, une force de caractère peut-être. Et pourtant, on pourrait croire que finalement, on pouvait se mettre à 10 ou 20 sur lui. Il arrivait à s'en rendre maître par la force même de sa volonté. C'était un homme qui faisait ce qu'il voulait. Non. C'était un homme en prison. Et on voit bien au verset 5 le problème de sa vie. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombes et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. C'était un homme qui n'avait pas de demeure finalement. Il n'était jamais bien, jamais. Partout où il était, ça n'allait pas. Évidemment, encore plus dans son cas, parce que lui, il errait entre les montagnes et les tombes, c'est pas l'idéal pour vivre. Mais ça montre aussi dans nos vies peut-être des situations où les tombes nous parlent du point le plus bas, les montagnes nous parlent du point le plus haut, et notre vie est une succession de Dancy qu'on n'arrive plus à contrôler. Un jour c'est le ciel sur la terre, le lendemain on est au fond du trou, et on ne sait plus ce qu'a... On a perdu le sens de notre vie. Vous savez comment ça s'appelle, ça? C'est l'errance. J'erre. Et ici, c'est une marque typique de quelqu'un qui est possédé, parce que les démons sont des êtres errants. Ce sont des êtres qui n'ont aucun sens. Et finalement, le comportement de cet homme, c'était quelqu'un qui errait. Et quand on se retrouve ainsi, suite à nos choix, dans une vie de péché, on est condamné à cette même errance. On perd le sens des choses. On perd le sens de la vie. On ne sait plus où on en est. On ne sait plus dans quelle direction aller. On ne sait plus que faire. Notre vie a complètement perdu le goût. Elle est devenue une fadeur terrible. Et c'est ainsi qu'on peut constater, juste en lisant les nouvelles, que des personnes qui sont pourtant très riches en arrivent à se donner la mort. Quand la vie a perdu le sens, quand on ne sait plus où aller, quand on n'a plus d'espoir, quand on se retrouve au fond, on ne sait plus comment faire, on ne sait plus où aller. Pourtant, on peut avoir l'apparence de quelqu'un de libre, on peut avoir l'apparence de quelqu'un qui sait ce qu'il veut, et à l'intérieur, ça n'a rien à voir. Cet homme, il se meurtrissait avec des pierres. Il criait. On voit bien que cet homme était dans une grande souffrance. Son péché, l'esprit qui était en lui, l'a mené à se meurtrir. Comme quoi on le voit, quand on commence à abîmer son propre corps, eh bien, c'est bien dommage, mais ça montre surtout un malaise. Quand moi je vois des personnes avec des bosses sur le crâne, des gros trous aux oreilles, je me dis, mais il y a un problème. Des personnes qui sont dans ce mal-être et qui ne savent plus quoi faire. Tellement ils sont mal, ils essayent de se dire, bah, tiens, je vais changer de look, je vais changer de silhouette en mettant des trucs un peu partout et peut-être que ça ira mieux. Ou alors, est-ce un moyen d'afficher sa révolte intérieure parce qu'il ne s'accepte pas tel qu'il est? C'est une grande tristesse quand on en arrive à abîmer le corps, notre propre corps. Cette chose si merveilleuse, je dirais, notre corps, quand on réfléchit et quand on regarde de plus près comment il est fait, on va demander un avis à un médecin, on ne peut être qu'émerveillé de ce que nous sommes. Et pourtant, on voit, il ne suffit pas d'aller loin, on voit des personnes qui sont prêtes à le maltraiter, mais d'une manière qui nous fait des fois, qui nous choque. Cet homme, c'est ce qu'il faisait. Il se meurtrissait avec des pierres. Il se dirigeait vers la mort. Mais ça ne s'arrête pas là. Heureusement, on voit au verset 6 une lueur d'espoir. Et là, on voit dans ce verset 6 que finalement, il pouvait avoir une légion de démons à l'intérieur. On voit quand même que tout n'est pas à mettre sous le couvert des démons. C'est un homme qui pouvait garder un certain contrôle de lui-même, et il voit Jésus de loin, et il va s'approcher, et il va se prosterner. C'est un homme qui veut, qui ne se satisfait pas de sa vie, c'est un homme qui veut s'en sortir, c'est un homme qui est lucide sur sa situation, et il va se prosterner au pied de Jésus. Seulement, une fois au pied de Jésus, la lumière révèle ce qu'il y a à l'intérieur, et forcément les démons qui sont en lui ne peuvent pas le supporter et vont réagir tout de suite. Ce n'est pas l'homme qui prend la parole, ce sont les démons. Quand on lit « Ne me tourmente pas », on ne va quand même pas croire, car est-ce que nous venons de voir, cet homme était dans la paix quand même. Il n'était pas dans la paix, loin de là. Il était tourmenté, justement. Il était tourmenté. Et ils étaient nombreux, visiblement, à le tourmenter. Cet homme n'en pouvait plus des tourments. Et il s'est prosterné aux pieds de Jésus. Et Jésus a pu faire le miracle. Jésus a pu faire ce qui était impensable pour lui. Jésus a chassé les démons. Jésus les a tous chassés. Il n'y en a pas un qui a pu rester. Parce que la parole de Jésus a pu faire autorité. La parole de Jésus, elle n'a pas pu être contredite. Tout est soumis. Et à sa parole, le Seigneur Jésus, quand il a adressé la parole à ses esprits impurs, il les a chassés et il n'avait pas le choix. Et cet homme ainsi a vu sa prière exaucée. Sa prière, oui, je dis sa prière, parce que quand on arrive à courir au pied de Jésus et se prosterner devant lui, même sans parler, c'est une prière. Dieu avait vu l'état de son cœur. Dieu avait vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Il avait vu qu'il était mal dans ses tourments, qu'il était mal dans sa vie. Il était dans une situation tellement grave. Cet homme, je ne l'ai pas souligné, mais il était nu. Tout le monde voyait sa honte. Il n'était caché de personne. C'était quelqu'un qui, de par sa vie, faisait peur à tout le monde, au point que personne ne passait par là. Cette honte-là, eh bien, elle a un mot, ça s'appelle le péché. Le péché, c'est ce qui nous fait honte. C'est ce qui fait que finalement, quand on se retrouve ainsi, avili dans notre péché, on ne veut plus voir personne parce qu'on a tellement honte de nous-mêmes. On a l'impression que ça se voit comme à l'œil nu. Et on a l'impression que tout le monde nous juge. On a l'impression que tout le monde lit en nous comme dans un livre ouvert. On est comme si on était nu. On a l'impression que tous autour de nous savent tout sur nous. Parce que on est ainsi avili par le péché. On est soumis, esclaves du péché. On ne peut plus s'en sortir nous-mêmes. Et on n'ose plus sortir. On n'ose plus aller vers les autres. Parce que on a tellement honte de nous-mêmes. Ce péché qui nous fait honte, cette nudité, la fin de cet homme, elle est heureuse. Et je voudrais terminer là-dessus. Cet homme, quand on lit au verset 15, on voit autre chose. Le Seigneur Jésus va chasser les démons. Il va chasser les démons. Ça va se faire sur le champ. La vie de cet homme sur le champ va changer. Combien de temps se passe-t-il entre le moment où les gens s'aperçoivent que les pourceaux sont tombés et qu'ils alertent toutes les campagnes, les villes et qu'ils reviennent et qu'ils découvrent ainsi cet homme auprès de Jésus. Regardons la description. Assis, vêtu et dans son bon sens. Un homme qui ne faisait qu'errer découvre la vraie liberté et il s'assoit. Un homme qui était nu, sans vêtements, sans rien, qui semblait vouloir faire ce qu'il voulait, va, de par la nouvelle liberté qu'il va avoir, va prendre la décision de s'habiller. Un homme qui disait « je fais ce que je veux, je pars tout azimut » dans sa liberté, suite à l'action du Seigneur, va se retrouver assis, vêtu, dans son bon sens. Il a retrouvé la raison. Il a retrouvé, je dirais, une raison de vivre. Il a retrouvé, justement, le sel qui manquait à sa vie. Il a rencontré le Seigneur Jésus lui-même. Il a rencontré celui qui pouvait éclairer sa vie. Jésus, la lumière du monde. Et c'est ainsi qu'il était tellement bien à côté de lui. Assis. De quoi nous parle le fait d'être assis ? Assis, ça nous parle d'être dans le repos, tout simplement. Une position assise, c'est une position dans laquelle on ne fait pas d'effort. Lui, il errait. Il devait être fatigué quelque part, mais il n'avait pas de repos, cet homme. Il était tourmenté. Lui qui était si tourmenté, se retrouve à supporter d'être assis à côté de Jésus. Et il s'est trouvé bien au point que quand Jésus va s'en aller, il va lui demander de rester auprès de lui parce qu'il y était trop bien à côté du Seigneur, parce qu'il était à côté de celui qui l'avait sorti de cette vie bien triste. Quelqu'un qui avait retrouvé un sens à sa vie. Et on va le voir que le Seigneur va lui donner un vrai sens à sa vie. Et on va voir qu'il va avoir aussi du succès. Mais qu'est-ce qui a permis ainsi cette vraie délivrance? Je l'ai surligné dans ma Bible au verset 19. C'est quand Jésus dit « Le Seigneur, ce qu'il t'a fait et comment il a eu pitié de toi ». J'aimerais te dire ce soir que si tu te trouves un peu comme dans la peau de cet homme, que tu te sens tourmenté dans ta vie, que peut-être tu es fatigué dans ta vie, peut-être que tu te rends compte que ta vie totale est un échec et tu ne sais plus que faire, tu ne sais plus où aller, sache que si tu cries à Dieu, il aura pitié de toi. J'aimerais juste lire quelques versets, un verset dans le psaume 34. Pourquoi Dieu a pitié ainsi? On a une vérité dans le psaume 34 au verset 7 qui nous dit ceci. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le bonheur de Dieu, c'est de vous voir vous réjouir. Le bonheur de Dieu, c'est de vous voir dans une vraie liberté, une vraie vie où vous allez retrouver un sens, une vie où finalement vous allez découvrir l'amour de Dieu, celui à qui vous a aimé d'un amour si grand. Et dans le psaume 51, on y trouve d'autres textes qui nous montrent comment crier à Dieu. Dans le psaume 51, on a le roi David qui s'approche de Dieu, et il vient tel qu'il est. Il vient tel qu'il est. Conscient de son état, conscient du besoin qu'il a, d'une action de Dieu dans sa vie. Et c'est ainsi qu'il s'approche de Dieu et qu'il écrit ces paroles. « Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes crimes et mon péché. » Même si on n'a pas commis de crime, le péché est là dans notre vie. Et il nous faut le reconnaître. La Bible dit que tous sont péchés et privés de la gloire de Dieu. Il suffit simplement de regarder. À partir du moment où dans ma vie, je me sens perdu, ma vie n'a pas de sens. À partir du moment où je suis malheureux dans ma vie, je constate que je n'y arrive pas. Ça veut dire qu'il y a le péché aussi dans mon cœur. Ce péché qui me rend esclave, ce péché qui fait que finalement je n'arriverai jamais à saisir vraiment à quel point Dieu peut m'aimer. Ici, David est honnête et sincère avec lui-même. Il avait fauté, il avait devant Dieu, il avait commis des crimes, c'est vrai, pour ce cas-là, oui. Mais il s'est approché avec ses casseroles bien pleines devant Dieu. Et je crois que c'est là qu'est le salut. Quand on s'approche de Dieu, avec nos casseroles bien pleines, « Seigneur, voilà ce que j'ai fait. Et j'en ai bien honte. Seigneur, je te demande pardon. » Pourquoi le pardon est possible? Parce que le Seigneur Jésus, comme on l'a chanté à travers plusieurs chants, Jésus a tout donné. Lui, il était sans péché. Il a marché parmi les hommes, sans commettre une seule faute. Et il a été condamné pour nous. Il a pris la condamnation, une condamnation qui était injuste. Et pourtant, il a été condamné à mourir sur une croix. Il a donné sa vie. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, Dieu lui-même, incarné dans un homme. Incarné, c'est ça que ça veut dire. Incarné. Il a été dans un homme. Il a vécu ainsi parmi nous, sans commettre de péché. Et il est mort. Son sang a coulé. Il a donné son sang jusqu'à la dernière goutte. Et le troisième jour, il est ressuscité, parce que la mort ne peut pas le retenir. La mort ne peut pas le retenir, et c'est ce qu'on voit encore ici dans cette histoire avec ce démoniaque qui était dans les tombeaux, qui était dans ce paysage de mort. Et peut-être que dans ta vie, c'est un paysage de mort, et tu es entre guillemets parmi les morts, parce que tu es avec des gens qui sont dans le péché, et des gens qui sont forcément des condamnés à mort, comme Jésus a été condamné à mort lui aussi. Eh bien, il te donne la vie, il te permet d'avoir la vie parce que lui a pris ta condamnation. Si seulement tu veux bien t'approcher de Dieu, comme cet homme, il a vu Jésus de loin et il a accouru et il s'est jeté aux pieds du Seigneur et il a imploré sa grâce. Si ce soir tu voulais saisir la grâce de Dieu qu'il veut te donner, j'aimerais qu'on puisse se recueillir quelques instants. Cet homme, suite à sa guérison, il va aller même publier dans toutes les villes qui étaient les siennes ce que Jésus avait fait pour lui. Il avait retrouvé un sens, il avait retrouvé une vraie vie. Il avait expérimenté la grâce de Dieu. Alors qu'on va rester recueillis, on va rechanter ce chant tel que je suis. Et j'aimerais vous donner la possibilité de vous approcher. C'est pas les mains de Dieu qui vont se poser sur vous, c'est les mains d'un homme. Mais je vais prier pour vous, Michael, et moi on priera pour vous s'il le faut. On va demander au Seigneur sa grâce pour vous, pour que vous puissiez, en fonction de ce pourquoi vous vous avancez, mais que vous puissiez obtenir cette grâce de Dieu. Peut-être que dans ta vie, tu es comme cet homme, tu te retrouves dans quelque chose de similaire à cet homme. Tu te dis, ma vie, j'ai perdu le goût à la vie parce que je me suis empêtré dans telle ou telle chose. Je réalise que j'ai besoin de Dieu dans ma vie parce que je suis dans le péché. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Moi aussi, je veux ce nouvel espoir. Alors que je viens près du Maître, ma vie retrouve un sens. Et ô combien elle retrouve un sens. Parce que la destinée, c'est pas les tombeaux, c'est pas la mort, c'est pas l'enfer. C'est la vie éternelle. C'est la vie auprès de Dieu, au paradis. C'est pour ça qu'il l'a créé. Et le Seigneur n'a pas d'autre désir que de vous faire du bien, que de te faire du bien. Je le dis au singulier, parce que c'est pour chacun. Le Seigneur te cherche et il veut te faire du bien, mais simplement, il faut que de tout ton cœur, tu t'approches de lui et que tu lui demandes sa grâce.